Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Le 8 décembre à 14h auront lieu, et je dis bien auront lieu à Genève, à Berne et à Neuchâtel, des manifestations qui sont en fait des marches pour le climat. Nous avons avec nous Yvan Winteler, bienvenue à toi Yvan, merci Bonjour. De te rendre disponible pour cet entretien. Il y aura donc la marche du climat qui, si je ne m'abuse, est une marche mondiale, c'est-à-dire qu'il y aura des événements un petit peu partout dans le monde. Est-ce que c'est juste ou est-ce que tu me démentiras ?
Alors, partout dans le monde, je ne sais pas. En tout cas, en Suisse et en France, c'est sûr. Par contre, on restera sur place si on ne fait pas une marche. Question d'autorisation pratique et tout ça. Donc, ça sera un rassemblement plutôt.
D'accord. Et alors, comme je l'ai dit, ce sera le 8 décembre. Mm-hmm. Et ce sera donc à Berne, à l'Helvetia Platz.
À midi.
À midi, à la place Belair à Genève.
À 14h.
Et ensuite, et également, pardon, à la place des Halles à Neuchâtel.
Aussi à 14h.
Voilà. Et parmi les singularités, eh bien sûr que nous allons discuter de pourquoi cette marche aura lieu. On a bien compris que c'est autour du climat et que c'est une alerte qui veut être donnée. Mais c'est une manifestation qui, justement, va en quelque sorte sonner le tocsin. C'est-à-dire que les personnes sont invitées à venir avec des casseroles, des cloches.
Exactement, des trompettes, tout ce qu'on a qui fait du boucan.
Très bien. Alors, quels sont les arguments? Pourquoi faut-il se mobiliser et pourquoi c'est impératif de le faire?
Alors, deux raisons. Un, c'est que le climat va mal. Il va mal depuis un moment, mais ça se voit de plus en plus. Il va plus mal que prévu. Il y a 5 ans, on n'imaginait jamais être dans une situation comme on est aujourd'hui. Il fait trop chaud pour la saison. Les glaciers fondent. Il y a des feux de forêt pas possibles en Californie. On voit qu'il y a vraiment un gros problème. Donc, un gros problème et un problème qui va s'accentuer. Là, on est au début du problème et quoi qu'on fasse, il va s'accentuer parce qu'on ne va pas pouvoir freiner aujourd'hui, tac, comme ça. Par contre, c'est comme quand on fonce dans un mur en voiture, on plante sur le frein. Maintenant, on doit planter sur le frein. On va quand même se prendre le mur, mais il faut planter sur le frein. On ne va pas continuer, oh ouais, c'est pas grave, il y a un mur, oh ouais, boum. Non, on plante sur le frein et c'est le moment de planter sur le frein. On va aller quand même dans le mur, on aura un bout de réchauffement, mais si on plante à fond sur le frein, on aura moins de réchauffement que si on continue.
C'est-à-dire que le réchauffement, comme tu l'as dit, est devenu inévitable.
Il est inévitable, il est déjà là. Mmh. Il est déjà là. Il y a 1 degré de réchauffement au niveau mondial et on est à 2 degrés en Suisse. La Suisse chauffe plus que la moyenne.
Mmh. D'accord.
Donc, il peut par contre monter beaucoup ou il peut se stabiliser à 1,5, 2, voilà, c'est ce qu'on aimerait. Mais si on continue comme on fait, il va arriver à 4 degrés, 5 degrés ou plus.
Oui. Et quelles seraient les conséquences dans ce cas-là?
La première, c'est le montée de niveau de la mer. Ça veut dire Amsterdam, c'est loin, Bordeaux, c'est loin, Venise, c'est loin. Toutes les villes frontières, que ce soit en Europe ou la Floride, Miami ou en Asie, ils ne sont plus là. Ils sont sous l'eau. Mm-hmm. Alors peut-être pas tout de suite, c'est peut-être, moi je ne le verrai pas, peut-être mes enfants le verront, mes petits-enfants. Mais à terme, ça veut dire toute une zone côtière qui disparaît. Et les gens qui sont dans ces zones côtières, eh bien, vont bouger. Hein. Alors là, on se plaint un petit peu des migrations, mais là, il y aura beaucoup plus.
Donc des réfugiés climatiques.
Voilà, alors ils seront peut-être protestants parce qu'ils viennent des Pays-Bas. La place d'être musulman, mais je ne suis pas sûre que ça changera tant que ça. Hein.
Selon toi, est-ce qu'on peut encore éviter le pire? Tu as parlé effectivement d'un réchauffement qui serait confiné à 1,5 ou 2 degrés. Est-ce que ça, c'est encore possible si on se mobilise tout de suite?
Techniquement, c'est possible. C'est ce que nous a dit le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC nous a dit il y a 12 ans, 12, c'est pas beaucoup en politique, pour diminuer les émissions de 45 degrés, la moitié moins. Ça veut dire une grosse réaction. Ça ne veut pas dire business as usual, je continue, je vous mets une petite taxe par-ci, par-là, oh, peut-être une voiture un petit peu plus petite. Et puis, non, ça veut dire une grosse réaction de l'ordre qu'on a connu comme une situation de guerre, en fait. Et malheureusement, le problème, techniquement, c'est possible. Politiquement, on a de la peine à y croire, mais on doit viser ça. Et si ça ne sera pas 1,5, peut-être qu'on arrivera au moins à limiter à 2. Parce que ce qui va se passer, c'est que la situation va s'empirer encore plus, et à un moment donné, il y aura un sursaut. Mais on aimerait ne pas être déjà dans le mur quand il y a le sursaut.
Quelles sont alors les mesures urgentes qui s'imposeraient immédiatement? Et puis ensuite, quelles seraient les mesures qu'il faudrait prendre pour le long terme?
Alors, les mesures urgentes, c'est qu'il faudrait déjà arrêter d'investir. Il y en a beaucoup, mais il faudrait arrêter. Dans un monde idéal, on diminuerait drastiquement la consommation de pétrole, de charbon, voilà, et de gaz. Mais d'abord le charbon et le pétrole. On arrêterait d'investir pour extraire du charbon et du pétrole. Il y a même une votation sur veau parce qu'on veut encore, on hésite encore à savoir si on ne veut pas continuer à les extraire sur veau. Incroyable.
Incroyable.
Donc arrêter d'investir là-dedans, arrêter d'investir dans les nouvelles routes et mettre tous les moyens qu'on a, financiers, humains, sur le fait d'investir dans des infrastructures bas carbone, c'est-à-dire des infrastructures qui consomment moins, aller à pied, privilégier le vélo, etc. Il y a des choses qui peuvent être faites, techniquement c'est faisable, c'est une question de volonté politique. Et ça veut dire un changement, et n'importe qui, on sait tous qu'on n'aime pas les changements, à un moment donné, il faut changer quand même.
Alors, et les mesures à long terme, selon toi, c'est effectivement de prendre de nouvelles habitudes différentes que celles qui nous habitent actuellement. Typiquement, alors, aller à pied.
Les peut-être... habitudes, c'est sympa, mais à un moment donné, il y a quand même un contexte politique, un contexte financier. Il faut rediriger les investissements. Il faudrait, dans les mesures urgentes, par exemple, les caisses de pension pourraient sortir tout l'argent qu'ils ont dans les énergies fossiles. De même l'UBS, de même le Crédit Suisse. Ces investissements-là, c'est des milliards qui sont investis pour le charbon. Et on n'arrête pas de nous dire ces temps que la Suisse est déjà très bien. 5 tonnes de CO2 par personne, c'est super, mais on oublie complètement la place financière, on oublie complètement l'aviation, on oublie complètement le fait qu'étant un pays riche, on consomme beaucoup. Donc toutes ces choses-là, il faut voir la réalité en face. Il y a des choses qu'on peut arrêter vite. On peut arrêter tout de suite, le Crédit Suisse pourrait arrêter tout de suite de mettre plus d'argent dans le charbon.
Absolument. Alors nous allons par la suite continuer avec des questions autour. J'aimerais t'entendre sur le nucléaire et évidemment sur le charbon également. Concernant justement le charbon et la COP24 qui vient de débuter, elle a lieu en Pologne, dont on sait que c'est un pays qui justement met le paquet autour du charbon. Comment est-ce qu'on peut arriver, puisque récemment encore, nous avons vu que notamment Ende Gelände, qui est un mouvement de résistance en Allemagne, s'oppose également et dit qu'il faut arrêter avec l'extractivisme du charbon, du lignite, etc. On a l'impression que les politiques ne veulent rien entendre. Est-ce à dire qu'il y a une influence des lobbies et que c'est cette finance-là qui contrôle tout? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut la contrer?
Alors, aujourd'hui, je dois dire que je suis un peu désespérée parce qu'aujourd'hui, au Conseil national, il y a eu le débat sur la loi CO2. Et même si on n'attendait pas une loi CO2 géniale, on attendait quand même qu'il ne démonte pas le peu qui reste. Aujourd'hui, au Conseil national, le PLR et l'UDC ont voté pour supprimer toute contrainte en Suisse sur le taux d'émission qu'on veut, et ils ont remplacé le mot objectif par je ne sais plus quoi, quelque chose d'incitation. Donc on balaye tout, on déconstruit complètement la loi. Oui, on fait un petit peu en Suisse, un petit peu à l'étranger, 50% bien sûr, mais on ne peut pas vraiment mesurer les objectifs, alors que ça fait des années qu'on se donne des méthodes, des moyens de mesurer, et là on arrive, et voilà. Et pour répondre à ta question, bien sûr que c'est les lobbies. Le président de l'UDC, c'est le président de chauffer au mazout. Donc forcément qu'il n'est pas neutre. Et il y a très clairement deux blocs. Pour l'instant, c'est très politisé, droite-gauche. Il y a le bloc PLR-UDC qui vote massivement en bloc, à peu de choses près, contre, pour affaiblir la loi. Et l'autre bloc vote pour... Alors il y a les gens au milieu qui sont un petit peu entre deux. La question politique, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est pas est-ce qu'on fait quelque chose? Et là, ils ont juste voté pour rien faire. Donc oui, il y a trop d'influence des lobbies. Et là, c'est, je dois dire, assez désespérant de voir ce qui se passe. C'est pas fini. Samedi, on manifeste, il faut absolument que tout le monde sorte. Donc, 8 décembre, midi à Berne, 14h à Genève ou à Neuchâtel, il faut absolument que tout le monde vienne. Il va pleuvoir, il va faire dégueulasse, il faut sortir quand même. Voilà, par la pluie avec, et on a prévu du thé chaud ou des boissons chaudes, mais il faut sortir parce qu'il faut vraiment qu'on dise que c'est pas ça la politique qu'on attend. Et oui, on peut tous s'adapter, faire des petites mesures, aller à vélo, mais à un moment donné, c'est une question politique.
Voilà, c'est
parce que, à un moment donné, si on a un travail à un endroit et qu'on habite ailleurs, s'il n'y a pas de transport public, c'est difficile de s'adapter. Donc, il faut des mesures politiques pour aider au changement, pour créer les conditions cadres.
Absolument.
Et ces mesures politiques, c'est pas mettre des taxes, c'est aussi créer des conditions pour...
Absolument. Voilà, on pourrait parler également d'une relocalisation des emplois, ou en tout cas l'idée d'aller dans le fait que les personnes doivent peut-être moins se déplacer. Mais avant cela, peut-être, Nous n'avons pas encore rappelé le site internet marcheclimat.ch, si je ne me trompe, c'est le site internet de l'association.
Alors, moi je suis d'association Climat Genève, notre site internet c'est climatgenève.ch.
Climatgenève.ch.
Et marcheclimat.ch, c'est le site de toutes les associations qui ont organisé la marche le 13 octobre. On a une dizaine vraiment actifs et une bonne autre dizaine qui soutiennent. Un site commun fédérateur, marcheclimat.ch.
D'accord. Voilà. Alors là-dessus, on trouve toutes les informations concernant les différentes. Voudrais-tu nous dire quelques mots de justement de ton association ?
Alors nous, on est une association créée en 2014. On avait à l'époque organisé une marche pour le climat en septembre. On avait eu à peu près 700 personnes, on était très contents. Et depuis, nous, on s'est surtout spécialisé dans l'organisation de ces marches-là, etc.
D'accord. Et au sein de l'association, combien êtes-vous et comment ça se passe? S'il fallait lancer un appel, de quoi auriez-vous besoin?
Ce qu'on a surtout besoin, c'est que chacun en parle. Là, on vient aujourd'hui de sortir sur Facebook encore les problèmes qu'on a par rapport à cette loi CO2. Il y a un tas d'appels, il faut vraiment partager ça, parler à un maximum de gens, etc. On est une petite association, on est tous bénévoles, on n'a pas des moyens énormes, mais on est aussi du coup indépendant des partis politiques, indépendant de... d'autres choses, et voilà, c'est pas l'argent qui fait, mais c'est le fait que les gens en parlent, c'est que les gens, voilà, que...
C'est d'informer, vraiment.
C'est d'informer, ouais. Et vraiment, il faut partager tout ça sur les réseaux sociaux, et venir samedi.
Ouais. Les prochaines séances, on l'a compris, c'est donc samedi prochain, là, c'est extrêmement, c'est fondamental d'y être, et ensuite, y a-t-il déjà des choses qui viendraient après, auxquelles vous avez pensé?
Et on n'a pas encore organisé la suite. Alors on sait qu'on va organiser une manifestation nationale à Berne le 5 octobre 2019. C'est loin, mais c'est juste avant les élections fédérales. Parce qu'à un moment donné, on va regarder qui a voté quoi et comment ça se fait qu'on en est là à démonter une loi CO2. Alors que tous les scientifiques nous disent qu'il faut fortifier la loi et on la démonte. On a Météo Suisse qui n'est certainement pas des scientifiques extrémistes, qui sont apolitiques, qui sont là et qui nous disent... C'est le dernier moment pour faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On recule.
Alors, justement, tu parlais de Météo Suisse. Qui sont les associations PAIR, PAIRS, ou les groupes politiques, les syndicats qui vous soutiennent?
Alors, c'est ce que je disais. Il y a malheureusement un clivage droite-gauche que pour moi, il faut dépasser.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, socialistes et verts sont très pro-climat. PDC, passablement, voilà, enfin, j'ai encore pas regardé qui a voté quoi, mais comment ça se fait, je crois que c'était 97 voix contre 95, je crois, donc ça se joue à peu de choses, hein. Il y a quelques pivots qui pourraient changer de côté, ça ferait basculer dans l'autre sens, mais là, on est mal barré. Donc, nous, association, on tâche d'être neutre, pas, on est politique, parce que c'est une question politique, mais on n'est pas soutenu par un parti politique. On aimerait au contraire rassembler les gens du centre. On aimerait que, quelle que soit l'orientation politique, on soit tous convaincus qu'on doit bouger et tirer la même corde.
Très bien, très bien. Et au sein de la population, comment sens-tu la conscience populaire? Est-ce qu'on sent qu'il y a une prise de conscience de ces problématiques-là? On sent qu'il y a, ou alors au contraire, on voit qu'il y a plutôt du déni des climato-sceptiques. Comment ça se passe?
Alors moi, ce que je sens, en tout cas sur vous et Genève, c'est que la prise de conscience, elle monte. C'est pas pour rien. On a eu 10 fois plus de personnes cette année à la marche que l'année passée. Donc je crois que monsieur, madame, tout le monde dans la rue se rend compte qu'il y a un problème de climat. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile de dire, oui, mais tu crois, enfin voilà, les gens se remettent plus facilement en question aussi. Alors, ils n'ont pas encore arrêté de voler en avion, mais disons. Ça augmente. Ceux qui sont climato-sceptiques, c'est les parlementaires. On les a élus il y a 4 ans. Il y a 4 ans, tout le monde avait une peur bleue de la migration, à tort ou à raison. Et on a aujourd'hui un Parlement qui est en décalage par rapport à la population, pour moi.
Est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses de cette COP24 qui a lieu en Pologne, donc de cette réunion pour le climat?
Alors, il faut continuer avec la démarche internationale, ça c'est certain. La COP21, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'avoir enfin abouti à un consensus de l'ensemble des pays. Donc oui, il faut continuer avec la démarche. Mais en fait, la COP24, elle ne sera pas meilleure que les contributions des pays qui y participent. Donc oui, la mission de la COP24, c'est de définir dans les détails fins comment on applique l'accord de Paris.
Ouais.
Et honnêtement, il y a un détail que j'espère qu'ils ne vont pas définir, c'est comment est-ce qu'un pays peut acheter des émissions à l'étranger. Ça, j'aimerais bien qu'ils disent avec pas, parce que ça pose tout le problème des doubles comptabilisations. Et l'idéal, c'est de renoncer à ça. Chacun est responsable chez lui de faire diminuer ses émissions, en tout cas celles produites dans son pays. Voilà, c'est pas à nous d'aller voir chez les autres. C'est un petit peu facile de dire, oh, ben, c'est moi, cherchez-vous, je vais venir faire chez vous, ça vous dérange pas. Et puis, en fait, on résout pas nos problèmes de mobilité, on résout pas nos problèmes de savoir comment on va se déplacer d'un point à l'autre sans utiliser constamment la voiture. Donc, on regarde pas les problèmes en face et ils vont nous retomber dessus beaucoup plus fort ailleurs. C'est comme si j'ai mon mur qui est là, puis je dis, oh, ben, je vais aller un petit peu, je vais essayer de le contenir un petit peu, mais le mur, il reste quand même là. On va foncer dedans.
Et puis on sait que délocaliser des entreprises pour se rendre dans des pays où les lois sont différentes et moins contraignantes, c'est aussi une funeste solution.
Bon, en fait, ce n'est pas de délocaliser les entreprises ce coup-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la loi CO2, il y a une diminution des émissions. Parce que ça fait elle était déjà en place pour Kyoto, cette loi CO2. Je ne veux pas dire qu'elle est géniale, mais disons, on a quand même légèrement diminué les émissions depuis 1990. On a diminué dans le bâtiment, grâce à un système de taxes qui est utilisé pour les subventions et rembourser la population sous forme de rabais sur l'assurance maladie. Ça, c'est important parce que le but, ce n'est pas non plus d'augmenter les impôts, mais bien de créer de meilleures conditions. Donc, il y a une taxe CO2 pour les bâtiments et pour l'industrie. Et ces deux domaines-là ont diminué leurs émissions. Il y a un domaine où, aujourd'hui, les mesures ne sont pas suffisantes, c'est le transport. Et comme par hasard, elles ont augmenté. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Conseil fédéral, à la place de réfléchir vraiment au transport, comment est-ce qu'on fait pour acheter des voitures plus petites? Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer moins? Est-ce qu'on met des péages urbains? Est-ce qu'il faut un peu d'électrique? Qu'est-ce qu'il faut? Un vrai plan qui consiste déjà peut-être à dire on va peut-être arrêter d'étendre encore le réseau routier et puis utiliser l'argent pour quelque chose d'autre. D'avoir un vrai plan pour la mobilité à la place, en fait, il dit on va augmenter un petit peu l'essence, mais pour que ça ne soit pas trop cher, on va acheter des compensations à l'étranger. Et donc, c'est sur les transports qu'on a un gros problème. Et c'est ça, le truc qui ne marche pas. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut faire quelque chose, lui, la première chose qu'il peut faire, s'il veut juste l'effort individuel, c'est la prochaine fois qu'il achète une voiture, il achète la plus petite voiture possible. Parce que je peux comprendre que c'est difficile d'aller à son travail, parfois, sans la voiture, dans certains cas, si on n'habite pas en ville, etc. Mais par contre, acheter une petite voiture, ce n'est pas une grosse perte de confort et ça fait déjà beaucoup diminuer les émissions. Et absolument. On voit qu'en Suisse, on achète des grosses voitures. C'est malheureux. Donc, c'est la première chose pour ceux qui n'en ont pas déjà fait. Soit vous vendez votre voiture, on n'en parle plus. Soit, si vous êtes obligé d'avoir une voiture parce que vous avez des enfants, etc., vous achetez une petite.
Absolument.
Mais n'empêche qu'il faut une politique globale et acheter des émissions à l'étranger pour compenser les transports, ce n'est pas une solution. D'ailleurs, c'est le prochain chapitre du débat CO2, le 10 et le 11 décembre.
D'accord.
Enfin, ils vont voter.
Absolument. Et on reviendra là-dessus, certainement. Encore deux, trois petites questions, et puis on s'arrêtera là pour ce soir. On ne veut pas te voler trop de temps non plus, mais c'est important ce que tu dis là. Concernant justement les infrastructures, est-ce que l'on peut saluer des initiatives comme, par exemple, la voie verte, des cheminements qui, justement, permettent aux personnes d'utiliser la mobilité douce au quotidien, et également est-ce qu'on peut saluer des initiatives qui concerneraient par exemple le ferroutage ou ce type de solution-là?
Alors certainement que la voie verte qui rend plus facile, plus agréable le vélo, c'est une bonne chose. Une partie de la solution, c'est sûrement le vélo. C'est pas une solution pour tout le monde, mais parce qu'il y a des gens handicapés, parce que voilà, il y a des choses comme ça qui demandent d'autres solutions, mais ça fait partie de la solution, c'est clair. Le ferroutage, oui, oui, mais parce qu'il faudrait aussi songer à consommer plus local et simplement arrêter de transporter ses marchandises sur une grosse distance. Donc, c'est comme la voiture électrique, ce n'est pas une solution en soi, mais pour les transports qui restent, quand j'ai ma maman qui est malade, qui est en chaise roulante et que je dois aller quelque part, alors oui, la voiture électrique, c'est une bonne solution. Le ferroutage, c'est peut-être bien une bonne solution pour les déplacements de marchandises qu'on est obligé de faire. Mais si c'est pour manger des fraises à Noël, il ne faut pas manger des fraises à Noël.
Ouais. Voilà, donc on est plus dans l'idée de la décroissance et d'une conscientisation vraiment des personnes. Et c'est là où tu parlais justement d'informer les gens. Et c'est là où il y a un point crucial, c'est de dire qu'on peut effectivement fonctionner différemment.
On peut fonctionner autrement. Moi, je n'utilise pas trop le mot décroissance, même s'il est un petit peu à la mode, parce qu'au fond, ça fait aussi un petit peu peur, quelque part.
D'accord.
Il s'agit pour moi de consommer autrement. Il ne s'agit pas d'être complètement à la rue parce qu'on n'a plus rien. Il s'agit de, peut-être d'apprécier les choses autrement, de faire ses vacances autrement. Mais ce n'est pas parce que je fais mes vacances en Suisse ou en Italie et pas à l'île Maurice que je ne fais pas de vacances.
Absolument. Je voulais encore, pour en terminer, t'entendre sur cet argument qui consiste à dire « Le nucléaire, c'est pas si mal parce que ça nous permet de pas utiliser d'énergie fossile. » On sait que dans l'extractivisme, un des problèmes, c'est que le simple fait d'extraire, par exemple, le charbon, le lignite, provoque des dégagements néfastes. Alors, qu'en est-il du nucléaire ? Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que c'est une transition nécessaire ? Ou est-ce que c'est
Alors, pour répondre pour la Suisse, on a de la chance d'avoir beaucoup d'hydraulique, donc on n'a pas besoin du nucléaire. Et ces centrales nucléaires, elles ont été construites pour une durée de vie de l'ordre de 40 ans. Donc elles sont de plus en plus vieilles, on les tire de plus en plus et ça devient de plus en plus dangereux. Donc il y a d'autres solutions pour les remplacer que le nucléaire qui coûte moins cher et qui sont beaucoup moins dangereuses. Donc en Suisse, c'est pour moi, clairement, en plus ça a été décidé par le peuple, donc je ne sais même pas pourquoi on en discute. On a d'autres solutions moins chères, beaucoup moins dangereuses et qui sont là, donc il faut les développer. Il faudra les développer même un peu plus, ces énergies renouvelables, parce qu'il va falloir quand même payer la voiture électrique pour ma maman qui est en chaise roulante, et la pompe à chaleur pour remplacer le mazout de M. Rushdie, etc. Donc, il va falloir travailler à fond sur ces énergies renouvelables, y compris l'éolien, même si personne n'en veut. Hein, parce que quand il ne fait pas beau, quand il n'y a pas de soleil, des fois il y a du vent.
Absolument. On va même...
puis,
oui, pardon.
Non, vas-y. Après, les autres pays, pour moi, c'est à chaque pays de faire sa propre stratégie. Voilà.
D'accord. On va quand même rappeler qu'effectivement, le nucléaire, le problème se pose également avec évidemment les déchets, le stockage de ces déchets, et que toute cette gestion-là a un coût faramineux également, parce que là aussi, il s'agit de déplacer des choses, de les enfouir.
Et puis, c'est des risques, pour, comme le climat, c'est des risques pour les générations futures, parce que peut-être qu'une fois qu'on aura... fini, je ne sais pas comment, parce qu'on aura surchauffé la planète, et on aura oublié de mettre un petit signal, attention, il y a quelque chose là, faites attention. Donc c'est des risques pour des milliers d'années. Quoi,
exactement. Yvonne Vitaler, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On va, pour terminer cette interview, revenir sur le programme de ces manifestations. Donc on l'a dit, à l'Helvetia Platz à Berne, ce sera à 14h,
à midi.
À Berne, pardon. Et puis à 14h, ce sera Place Bel Air à Genève et Place des Halles à Neuchâtel. Et on invite toutes les personnes non seulement à s'y joindre, à en parler autour d'elles pour ramener des personnes et également ramener des casseroles.
Et voilà, exactement. Site web pour toutes les infos, marcheclimat.ch.
Merci beaucoup et alors à samedi.
À samedi.
Approchez, plus près. À trois, ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous voyez. Un, deux...
Libre Radio, www.libradio.org. Un regard beau comme un prolétarien, sur un monde turbide comme un bourgeois. Quitte la fange, rejoins la gang. info@libradio.org.